Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Finet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les orages ont fait un mort cette nuit. Une femme de 57 ans, victime d'une coulée de boue dans l'Aisne, des dégâts dans le vignoble en Bourgogne et une trentaine d'avions déroutés hier soir en région parisienne. Les agriculteurs à l'Elysée. Emmanuel Macron reçoit ce matin les syndicats du monde agricole. Il l'avait promis après la crise. Et puis Paris. Après Paris, battu 1-0 hier soir à Dortmund en Ligue des Champions. C'est au tour de Marseille ce soir face à l'Atalanta Bergame. Demi-finale aller de Ligue Europa au Vélodrome.
Et puis, notez mon invité à 8h30, ce sera Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il s'était fait un peu oublier, il revient parce qu'il y a des bonnes nouvelles, vous allez l'entendre, sur le front de l'économie française. Les orages ont donc fait une victime cette nuit.
Oui, on vient de l'apprendre et Romain Houck, vous allez nous donner des précisions pour RMC. C'est donc une femme de 57 ans qui est morte dans l'Aisne à Courmelles. C'est près de Soissons, victime d'une coulée de boue.
Oui, mais le phénomène s'est produit cette nuit aux alentours de minuit. Un événement intense et très localisé de pluie qui a engendré un ruissellement et une coulée de boue sur la commune. L'eau a dévalé depuis des terrains agricoles et des champs avant de s'engouffrer dans un secteur où se trouve une dizaine d'habitations. L'eau s'est particulièrement accumulée dans une maison. Selon le de cette commune, il y en avait 1,50 m à l'intérieur, ce qui a provoqué l'effondrement de la façade et emporté cette femme de 57 ans dont le corps a été retrouvé une heure plus tard. Son mari, qui se trouvait également à l'intérieur, est parvenu à s'extirper, mais il souffre de contusions à la tête. Plus de 50 sapeurs-pompiers ont été déployés pour cette intervention. La mairie a déclenché son plan communal de sauvegarde et a mis en place un centre pour accueillir les personnes sinistrées.
Les orages qui ont été violents, des dégâts recensés aussi dans le vignoble en Bourgogne, une trentaine de vol carrément dérouté des aéroports de région parisienne hier soir. 22 000 éclairs en tout et l'image impressionnante de la foudre qui s'abat sur le paratonnerre de la Tour Eiffel à Paris. Il est 8h02 sur RMC et c'est à 10h ce matin qu'Emmanuel Macron va recevoir à l'Elysée les représentants des syndicats agricoles. Comme il l'avait promis, le rendez-vous avait été repoussé. Il aura bien lieu donc ce matin pour tenter de mettre un point final à cette crise. Vous vous souvenez des nombreuses annonces, notamment au moment du salon. Le versement des aides européennes promis avant le 15 mars, l'abandon de la hausse de la taxe sur le carburant des tracteurs. Malgré tout ça, le malaise persiste, nous dit Caroline Philippe qui a rencontré pour RMC des agriculteurs qui, au moment de la crise, avaient bloqué l'autoroute A1 dans l'Oise.
Des tonnes de pommes de terre bio.
Vous avez des petits sacs.
Mais leur vente ne suffit pas à renflouer la trésorerie de Xavier Piau.
Mes comptes en banque sont à moins 50 000 euros et aujourd'hui, j'ai plus de quoi payer mes fournisseurs.
Cet agriculteur attend 90 000 euros d'aide de la PAC depuis le 15 mars, comme promis par le gouvernement.
Ce que l'administration nous annonce, c'est au mieux pour fin du mois de juin. On a la chance d'avoir des banques qui décalent de mois en mois les dates d'échéance, mais ils nous font payer et aujourd'hui, les intérêts sont à 6 %.
À tel point que Xavier, comme beaucoup d'agriculteurs dans l'Oise, pense à se remobiliser.
Pour l'instant, on ne voit pas le changement de modèle.
Au milieu de son champ de colza, Vincent Boucher, céréalier et responsable local de la FNSEA, s'agace.
On demande simplement de vivre de ce qu'on vend. Si je cède à mes enfants, je ne vois pas de perspective. À plus de 7 ans, 10 ans, comme il n'y a pas de projet à long terme pour la France par rapport au milieu agricole, moi je ne préfère pas que mes enfants s'installent. Ça serait aller devant un mur et ça je ne peux pas le supporter. Et si on est révolté, c'est parce que l'agriculture est réellement en faillite.
Pour l'instant, le projet de loi agricole ne les rassure pas tant que le texte n'est pas voté et les décrets d'application pris. Ces agriculteurs restent sceptiques.
C'est une information RMC. Encore un appel à la grève à la SNCF, cette fois en Île-de-France. Uniquement en Île-de-France. Pour la journée du mardi 21 mai, les syndicats demandent de meilleures primes pour travailler pendant les JO. Tout ça dans un contexte général d'économie, la chasse aux économies, 20 milliards d'euros pour cette année. C'est la mission ça, du ministre Bruno Le Maire, hein, qui est l'invité ce matin de RMC à 8h30. Bruno Le Maire, appelé à l'aide par les salariés de l'usine Emma France à Aulnay-sous-Bois, sous-traitant de Stellantis, le site jugé pas assez rentable. Les salariés redoutent une délocalisation de la production. 400 emplois sont en jeu. Les salariés qui occupent l'usine depuis 2 semaines maintenant, nous dit Alfred Orange sur place pour RMC.
Dans cette usine vaste comme un aéroport, plus rien ne tourne. Au milieu du parking, assis sur une chaise, Noël, agent qualité, pose le diagnostic.
Ils nous ont annoncé un cancer sans traitement, malheureusement, mais c'est à nous de choisir de mourir dignement.
Parce que ce risque de délocalisation touche directement la fierté de ces 400 salariés marqués au corps par leur métier. Yves est chef de ligne.
On est sur la ferraille, donc on peut se blesser à tout moment. On a des frères qui ont des dos qui sont cassés, qui sont des dos en compote. On a donné, il est savent. On faisait en sorte que le travail, la qualité française reste là. C'est une trahison.
Du savoir-faire français que Stellantis ne juge plus assez compétitif et veut à terme déplacer en Turquie. Pour Abdel, élu CGT chez MA France, il faut que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, intervienne.
On aimerait avoir un geste de bonne volonté ou une preuve de bonne volonté. Comme participer aux négociations ou je pense qu'il a des réseaux de communication qui lui permettent d'accéder à ce genre de personnes.
Si la négociation n'aboutit pas, les syndicats de MA France militent aussi pour que chaque salarié ait droit à une prime de départ et des garanties de reclassement.
Première nuit sous couvre-feu à Nice, la cinquième ville de France, où depuis hier soir, au nom de la lutte contre la délinquance, les mineurs de moins de 13 ans n'ont plus le droit d'être dans la rue entre 23h et 6h du matin dans plusieurs quartiers, y compris le centre-ville. C'est même les mineurs de moins de 16 ans dans le quartier des Moulins. La lutte contre la délinquance donc, mais c'est pas si facile que ça à appliquer. C'est ce que dit ce matin sur RMC Laurent Alcaraz du syndicat de police Alliance dans le Sud-Est.
On va avoir affaire aux mineurs français, donc là il y aura aucune difficulté de prise en charge par les forces de police. On arrive à établir l'identité, appeler les parents, on vient de les récupérer au commissariat. La deuxième va être la problématique des mineurs non accompagnés, étrangers en situation clandestine. Cela, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir établir l'âge, la nationalité, les mettre dans des structures départementales. Alors, quid de savoir est-ce qu'il y aura assez de place? Et surtout, ces structures, elles sont dites ouvertes, donc le mineur peut à n'importe quel moment s'échapper et retrouver un nouveau point de trafic de stupéfiants.
Il est 8h06, 5 jours de stress à venir pour les supporters du Paris Saint-Germain. Le PSG, imprécis, est battu 1-0 à Dortmund hier soir en demi-finale de Ligue des Champions. C'était le match aller. Il y a encore le match retour mardi prochain, donc à Paris. Et l'entraîneur parisien Luis Enrique promet un autre visage de son équipe.
Ce sera la première fois qu'on recevra lors du match retour. On n'a plus rien à perdre. On va donc tout donner pour gagner ce match. Maintenant, il faut récupérer et nous améliorer. Mais je le répète, j'aurais signé avant la rencontre si on m'avait dit qu'on aurait eu autant d'occasions. Il faudrait être plus efficace.
Et place à Marseille ce soir à 21h contre l'Atalanta Bergame en demi-finale de Ligue Europa. Là aussi, c'est le match aller. Au stade Vélodrome, plein à ras-bord ce soir pour défier les Italiens, Florent Germain.
Oui, c'est ce que Pablo Longoria, le président de l'OM, a appelé l'enfer du Vélodrome dans une interview accordée justement à la Gazzetta dello Sport. L'ambiance et la passion des supporters marseillais, ce sera l'atout numéro un de l'OM, reconnaît l'entraîneur Jean-Louis Gasset.
C'est pas qu'un club, c'est une ville entière qui joue une demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà ce que je ressens. On peut pas se promener sans que les gens nous parlent de ça.
Les supporters marseillais le savent, au cœur d'une saison compliquée, ce sont les fans de l'OM qui ont poussé les joueurs à se transcender.
On voit qu'en Europe, il y a l'ADN Europe et évidemment que sans le Vélodrome, c'était cuit.
Le Vélodrome, il va péter, ils savent qu'on sera là et il faut surtout pas encaisser de but, il faut en mettre un maximum.
C'est vrai, c'est toujours au Vélodrome que l'OM a fait la différence en Coupe d'Europe pour être aujourd'hui en demi-finale. Le défenseur Jonathan Clauss espère que les Italiens de l'Atalanta Bergame seront impressionnés.
Une ambiance comme ça, c'est extrêmement rare. Comme vous l'avez dit, ça peut impressionner et ça peut perturber l'adversaire et c'est un atout qu'il va falloir utiliser.
Attention quand même, l'Atalanta a assez supporté les ambiances chaudes. Les Italiens avaient gagné 3-0 au match aller à Liverpool lors du tour précédent.
Et l'autre demi-finale ce soir dans cette compétition entre la Roma et Leverkusen. Évidemment, soirée spéciale sur RMC à partir de 18h, le match à 21h, suivi de l'after et de la libre antenne jusqu'à 1h du matin.